Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h évidemment sur RMC. Mardi 12 mai, un cas positif sur le sol français, 22 cas à contact identifiés. Tous n'ont pas pu être localisés. On va consacrer ce matin une large partie de la matinale à y voir plus clair sur ce nouveau virus au centre de l'attention, l'antivirus. Est-ce qu'on a tiré les leçons de la crise du Covid-19? Je pose la question à l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui député Aurélien Rousseau. Il sera là à 7h40. Et puis tout comprendre à cette maladie, comment on la soigne, quels sont les symptômes, est-ce qu'il faut s'inquiéter de son degré de contagiosité, comment va la personne malade et actuellement hospitalisée. À 8h30, toutes les réponses du chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, le professeur Gilles Pialoux. Ça sera sur RMC et BFM TV. Et je vous attends évidemment. Est-ce que vous êtes inquiet? On a tous en tête évidemment le confinement de 2020. Est-ce que vous redoutez de repartir pour un tour? Vous n'hésitez pas à réagir, à partager. On vous attend au 3216 et vos messages sur le WhatsApp des RMC 0612 424 424. 6h59, dans un instant le journal de 7h. Et d'abord la météo, il y a un peu d'éclaircie et de fraîcheur.
Oui, alors ça va mieux en tout cas au niveau de la pluie, hein, après les fortes pluies d'hier, là c'est un temps beaucoup plus calme pour aujourd'hui. On peut avoir quelques gouttes encore ce matin vers le nord-est, vers également le massif central, les Alpes. En journée, ce sera beaucoup plus sec, donc alternance de nuages, belles éclaircies. Il fera très beau sur le sud-est avec du vent près de la Méditerranée. Et puis on aura à nouveau des averses orageuses, hein, qui éclateront assez fortes vers les Pyrénées, avec même un risque de grêle. Les températures en baissent encore, on peut avoir des petites gelées même ce matin sur le nord-est. Cet après-midi, on aura des températures plutôt dignes d'une fin mars, début avril. 13 à 19 degrés en général, 20 à 25 si vous êtes près de la Méditerranée.
Excellent réveil à tous, il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Isolement total à l'hôpital pour tous les cas contacts à l'antivirus sans exception. Le gouvernement renforce le protocole après un premier cas positif en France. Croisiériste du MV Ondu, son état est toujours critique mais stable ce matin. La mise en examen d'un Tunisien de 27 ans en situation irrégulière écroué hier soir, soupçonné d'avoir voulu projeter un attentat contre le Louvre et contre la communauté juive, et le doublé d'Ousmane Dembélé, sacré pour la deuxième année de rang meilleur joueur de Ligue 1.
Le gouvernement dévoile son plan de bataille contre l'antivirus.
Si l'OMS se veut rassurante, le gouvernement prend les devants avec deux réunions quotidiennes sur le sujet désormais. Réaction à un premier cas avéré sur le territoire, celui d'une croisiériste du MV Ondus rapatriée en France. Solène Leroux du service Société nous rejoint ce matin. Les règles d'isolement sont donc durcies désormais pour tous les cas contacts à la maladie. 22 ont à ce jour été identifiés, Solène.
Oui, et ils seront tous hospitalisés. Certains le sont déjà depuis hier. Pour d'autres, c'est en cours, d'après nos confrères de BFM TV. Pourtant, chacun d'entre eux n'a pas été exposé de la même manière à l'antivirus et n'inspire donc pas la même inquiétude. 8 sont des cas contacts à haut risque parce qu'ils ont pris un avion le 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg, et un vol d'environ 4 heures avec une croisiériste infectée, désormais décédée. Elle était aussi brièvement présente dans un avion qui reliait la plus grande ville d'Afrique du Sud à Amsterdam. C'est pour ça que ces 14 autres Français sont aussi cas contacts, à faible risque cette fois. Par principe de précaution, ils seront donc également mis à l'isolement renforcé à l'hôpital.
Et on s'interroge aussi ce matin, Solène, sur l'état de santé des 5 croisiéristes rapatriés dimanche du MV Ondus.
La seule Française contaminée est actuellement en réanimation dans un état stable après s'être dégradée la nuit dernière. Elle est soignée à l'hôpital Bichat, c'est un établissement parisien spécialisé dans les maladies infectieuses. Les 4 autres sont toujours en quarantaine dans ce même hôpital, ils n'ont pas de symptômes. Et c'est important car on sait désormais que le malade est le plus contagieux quand les symptômes se développent, ce qui peut expliquer pourquoi, à ce stade, aucune personne extérieure au MV Ondus n'a contracté l'antivirus. Les 9 cas confirmés dans le monde sont tous des anciens passagers du bateau.
Et les passagers du MV Ondus ont tous été rapatriés dans leur pays après les dernières évacuations. Hier soir, le bateau de croisière fait désormais route vers les Pays-Bas avec à son bord les 25 membres d'équipage, salués dans une vidéo hier par le capitaine du navire.
Les dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour nous tous. Ce qui m'a le plus touché, c'est votre patience et aussi la gentillesse que vous avez montré les uns envers les autres tout au long de la période. En mer, les gens dépendent les uns des autres. Il n'y a pas de service de secours disponible pour venir à votre aide en cas d'urgence. Je ne pouvais pas imaginer traverser ces circonstances avec un meilleur groupe de personnes, invités et membres de l'équipage. Le plus important est que nos pensées aillent à ceux qui ne sont plus avec nous. J'aimerais que vous sachiez qu'ils sont chaque jour dans nos pensées et dans nos cœurs.
Et ne manquez pas, à 7h40, d'abord l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui député Aurélien Rousseau, et à 8h30, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, le professeur Gilles Pialoux. Toutes vos questions, toutes vos réactions au 32-16.
Il est 7h03 sur RMC. 2 morts et 6 blessés dans une fusillade à Nice. 3 sont en urgence absolue. Ça s'est passé hier en pleine journée dans le quartier des Moulins, gangréné par le trafic de drogue. Le tireur court toujours. Ce matin, une enquête est ouverte. La mise en examen d'un homme écroué hier soir à Paris, un Tunisien de 27 ans, en situation irrégulière, soupçonné, Maxime Clieruza, d'avoir voulu projeter une action violente d'inspiration djihadiste dans la capitale.
Oui, dans son viseur, des membres de la communauté juive ainsi qu'un musée parisien, selon une source proche de l'enquête à RMC. Un musée qui ne serait autre que celui du Louvre, d'après les informations du Monde qui a révélé cette histoire. C'est en tout cas ce que les enquêteurs ont découvert pendant la garde à vue du suspect, interpellé jeudi dernier par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et la section antiterroriste de Paris. L'homme de 27 ans avait également prévu de se rendre en Syrie ou au Mozambique pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Il a été placé en détention provisoire hier soir pour association de malfaiteurs terroristes en vue de crimes contre les personnes, conformément aux réquisitions du parquet antiterroriste.
Le père de Matteo a bel et bien déposé plainte pour violence aggravée. On vous en parlait hier, ce jeune footballeur de 9 ans frappé au sol lors d'un tournoi de foot vendredi dernier dans les Hauts-de-France. La situation se tend ce matin au Moyen-Orient. Donald Trump évoque un cessez-le-feu sous assistance respiratoire après la réponse iranienne à son plan pour mettre fin à la guerre. Une réponse à mettre à la poubelle, dit le président américain, qui n'exclut pas de reprendre son projet d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz en cas d'agression. Téhéran promet de riposter. Cela ne devrait pas rassurer les acteurs du tourisme qui enregistrent une baisse d'activité depuis le début du conflit, jusqu'à 40% par rapport à l'an dernier. Résultat du baromètre France DMC Alliance que vous révèle RMC ce matin. Le tourisme, secteur inquiet à l'approche des vacances d'été. Reportage Pierre Borges à Bordeaux pour RMC.
Chaque été, Yuri Hirsch reçoit dans son camping en Dordogne une immense majorité de touristes néerlandais. Mais cette année, les réservations sont en baisse.
Il y a déjà au moins 20% de moins de locatifs de pré-réservés. Et j'irais presque jusqu'à 40% au niveau des emplacements nus.
En cause, selon lui, le risque d'une pénurie de carburant qui inquiète ses vacanciers. Dans l'agence de Lisa Dubois, Canadiens et Australiens ont quant à eux annulé leurs réservations. À cela s'ajoute son prestataire roumain qui ne lui enverra presque pas de touristes cet été.
Ce client m'a fait un chiffre d'affaires d'à peu près 250 000 euros l'année dernière. Et bien on va être à 60 000 cette année. C'est moins rassurant cette année que l'année dernière.
Et même quand les touristes sont au rendez-vous, comme à Sarlat en Dordogne pour l'instant, ils ne consomment plus. Katia Véré est directrice de l'Office de tourisme.
On sent vraiment qu'il y a un changement de comportement. Les gens vont beaucoup moins sortir de toute façon. Les boutiques vont être impactées énormément. Ça commence déjà.
De nombreux professionnels du tourisme indiquent également enregistrer, je cite, beaucoup de demandes pour décaler les réservations de cet été à l'année prochaine.
Le conflit au Moyen-Orient qui joue aussi sur le moral des petits patrons. 82% se distinguaient des répercussions de la guerre sur leur activité économique. Chiffre du baromètre de conjoncture fiduciale des TPE que vous révèle RMC en exclusivité. Et en réponse à la crise de l'énergie, le gouvernement élargit le prêt flash carburant au secteur du BTP réservé jusqu'ici aux taxis, agriculteurs, pêcheurs et transporteurs routiers. Le dispositif permet d'emprunter entre 5 et 50 000 euros. Le gratin du foot français à Paris hier soir, cérémonie des trophées UNFP avec le sacre d'Ousmane Dembélé, le joueur du PSG Arthur Perrault désigné une fois encore meilleur joueur de Ligue 1.
Oui, après le Ballon d'Or l'an passé, Ousmane Dembélé soulève le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive. Mais l'attaquant ne compte pas s'arrêter là.
Je passe des années exceptionnelles au Paris Saint-Germain. Même si j'ai gagné tous les trophées possibles, j'ai encore cette fin de continuer à remporter encore des trophées.
Avec seulement 9 matchs comme titulaire cette saison, Dembélé continue d'écraser la concurrence. De quoi rendre fier Désiré Doué, son coéquipier au PSG, lui aussi formé à Rennes, au micro du diffuseur Ligue 1+.
Félicitations Ousmane. hein. Tu mérites, voilà, t'es un exemple pour nous tous.
Dembélé vise maintenant une deuxième Ligue des Champions avec Paris, avant la Coupe du Monde qui débute dans un mois. Le sélectionneur Didier Deschamps sur Ligue 1+.
T'as eu des moments aussi très très difficiles, je sais qu'ils sont loin, mais c'est ce qui t'a permis de te construire dans ta vie, dans ta carrière, et tout le mérite t'en revient.
Ousmane Dembélé reste lié au PSG jusqu'en 2028. Des discussions sont toujours en cours pour prolonger le contrat de l'attaquant star du championnat de France.
Et Désiré Doué décroche lui pour la deuxième année de rang le titre de meilleur espoir. Le Lensois Pierre Sage est quant à lui sacré meilleur entraîneur de la saison. Et puis le tapis rouge est prêt sur la Croisette ce matin. Ouverture du Festival de Cannes ce soir pour 10 jours. 22 films sont en compétition pour succéder à un simple accident récompensé de la Palme d'Or l'an dernier.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À Nice, une nouvelle fois endeuillée par une fusillade en plein jour, hier après-midi.
On a entendu un coup de calache. Maintenant, on a l'habitude d'entendre des calaches. Mais en pleine journée, je ne m'attendais pas. La dernière fois, là, c'était là. Juste ici, une grenade, plus rafale. Tous les jours, ça va se passer.
On a l'habitude d'entendre des calaches. Témoignages recueillis par notre correspondante dans le Sud-Est, Anna Jojard. 2 morts, 6 blessés sur cette place très fréquentée. Une fusillade vraisemblablement liée au trafic de drogue. Le narcotrafic est certes déstabilisé, mais il est encore très loin d'être éradiqué. Voilà ce que nous dira dans un instant un responsable des policiers niçois.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, on reviendra sur cette fusillade Kalachnikov en plein jour et sur une des places de Nice. On sera en direct sur RMC avec le délégué départemental du syndicat de police Alliance dans les Alpes-Maritimes. Mais d'abord, vous êtes nombreux à nous appeler et à réagir sur les mauvais souvenirs que ça réveille, l'antavirus. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Apolline,
Christian, bonjour Christian qui est donc formateur à Toulon, dans le Var. Ouais. Christian, comment est-ce que vous réagissez-vous à ce cas d'une femme malade hospitalisée désormais et 5 personnes qui sont hospitalisées, 22 cas contacts?
Ben, comme disait l'autre, on reste calme et on boit frais.
Oui.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, je veux dire. Il n'y a pas à s'affoler, c'est ce que... j'envoyais dans mon message un petit commentaire, peut-être un petit peu acerbe, mais j'ai trouvé que justement ce week-end, pas sur votre chaîne, mais sur France Info pour tout dire, ouais. Une journaliste avait vraiment eu le côté panique au secours, et je trouve que c'est très négatif par rapport à ce que l'on peut, nous, téléspectateurs, auditeurs, sentir et ressentir. C'est exactement le contraire de ce que j'attends des médias. Ce que j'attends des médias, c'est vraiment le calme, la pondération.
Qu'on vous explique ce qui se passe, sans s'agiter, sans trembler.
Voilà, les bonnes personnes, et il n'y a pas de quoi s'affoler. On a vécu le Covid d'une façon pas très très drôle, mais moi je garde du gel hydroalcoolique, des masques à la maison. On a appris de toutes les façons. Tous les Français ont appris depuis ce moment-là. Je veux dire, il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Il y a d'autres problèmes. Les Français ont d'autres problèmes en tête. Je veux dire.
Et donc pas voilà, de fébrilité. Ce qui vous inquiète, c'est la fébrilité.
Oui, ce qui m'inquiète, c'est la façon de traiter l'information. Voilà. Donc, calme, restons calmes, comme disait l'autre. Voilà.
Restons calmes. C'est une des questions d'ailleurs que je poserai à 7h40, je vous le rappelle, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Justement, a-t-on appris du Covid-19? Je lui poserai la question à 7h40. Et puis à 8h30, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Thonon à Paris, Gilles Pialoux, pour justement tout savoir de manière factuelle et pas agitée. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Il est 7h14, on part à Nice. Bonjour Jean-Luc Bragato. Merci d'être en direct sur RMC ce matin. Vous êtes le délégué départemental du syndicat de police Alliance dans les Alpes-Maritimes. 2 morts, 6 blessés, une fusillade en plein jour dans le quartier des Moulins à Nice. Le trafic de drogue à nouveau mis en cause. Comment est-ce que c'est possible que ça continue?
Mais écoutez, c'est la question que nous posent beaucoup de gens, beaucoup de riverains d'ailleurs, parce qu'hier, nous étions sur les lieux et nous avons été sollicités par les riverains qui n'en peuvent nous dire ne plus en pouvoir. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Mais nous, ce qu'on leur répond, c'est qu'on fait avec les moyens que nous avons. En fait, on fait au mieux. Je peux vous assurer que les effectifs de police sur place font leur maximum, les effectifs de police nationale. D'ailleurs, il y avait une opération qui était en cours sur le secteur des Moulins, dans le bâtiment juste à côté, une opération liée au trafic de stupes avec le chien stupes, et des recherches étaient effectuées. Mes collègues ont entendu les tirs, ont entendu la rafale.
Donc vous étiez présent, c'est-à-dire qu'il y avait des policiers présents sur les lieux.
Aux victimes sur les lieux, mais l'individu était déjà parti. D'abord sur une trottinette et ensuite dans un véhicule. Et je vous avoue que même...
Je vous même entends, pour nos policiers, oui, allez-y. Je vous écoute, allez-y.
Plus vite on est sur le lieu, mieux c'est. Et
malheureusement, je vous entends...
On est arrivé un peu trop tard. Et c'est la répétition, comme vous le disiez, c'est la répétition. Au mois d'octobre, on a eu 2 morts. La semaine dernière, ça a tiré à nouveau sur les Moulins. À côté des Moulins, on a un jeune de 15 ans qui a pris une balle dans la jambe. Ça a tiré aussi sur Valoris, dans un quartier de la Zaïne. Mais tout ça est lié au trafic de stupéfiants. Donc en fait, il faut augmenter les moyens, il faut mettre les moyens. Comme je disais à vos confrères il y a quelques jours, on a un peu l'impression des fois, la police nationale, nous aussi, notamment sur les Alpes-Maritimes, de jouer en Ligue 1 avec des moyens de Ligue 2. Donc c'est vrai que voilà, face au trafic de stupes, il faut absolument qu'on accélère et qu'on mette plus de moyens encore aujourd'hui. Malgré la bonne volonté de la préfecture, hein, on a échangé avec le préfet... Encore hier, il y a la volonté de combattre le narcotrafic. On fait des opérations, on les multiplie, mais je vous avoue que les effectifs sont sur les Alpes-Maritimes sont épuisés.
Épuisés, vous le dites, il y a une vraie volonté de s'y attaquer. Je vous propose justement d'écouter ce que dit Damien Martinelli, il est procureur de la République de Nice. Écoutez.
Il y a des résultats puisque nous démantelons des points de deal, mais les démantèlements réduisent la part du gâteau, exacerbent des tensions et sont de nature à provoquer une violence totalement débridée et des passages à l'acte extrêmement rapides.
Au fond, ça veut dire que c'est presque parce que vous agissez qu'il y a ces fusillades ?
Ça en fait partie, mais pas que. Ils n'ont pas besoin de nous pour se tirer dessus, je vous dirais. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on affaiblit un réseau de trafic, eh bien, il y a toujours quelqu'un. Ils ont horreur du vide, vous savez. Donc, dès qu'on affaiblit un réseau, il y a un autre réseau qui essaie de se mettre en place, ou un autre réseau du département, ou qui vient de l'extérieur du département aussi. Donc, en fait, ces espaces que l'on libère, ils veulent absolument les réoccuper. C'est pour ça que ce qui est important pour nous, police nationale, c'est d'être présent en continu sur ces lieux-là. On ne peut pas simplement être de passage.
Voilà, ne pas être de passage, être là en continu. Vous avez peut-être
des policiers sur place.
Vous avez peut-être entendu ce témoignage.
C'est la demande qu'on a eue hier de la part des riverains. Ils souhaitent vraiment. On a eu un soutien. J'étais surpris. Non, j'ai pas été surpris en fait par le soutien des gens. On l'a déjà vu lors du rassemblement du 31 janvier organisé par Alliance. On a un soutien populaire. Et dans les Alpes-Maritimes, on sait que la population est derrière les policiers. Ils nous l'ont prouvé le 31 janvier. Voilà, il faut, on demande des effectifs sur le département. Alliance le demande depuis longtemps. Alors, c'est vrai, hier, on m'a dit, mais c'est peut-être pas le moment de demander des effectifs. Mais si, justement.
Justement, c'est le moment. Je vous entends mal, Jean-Luc Bragato, mais merci beaucoup d'avoir réagi ce matin. Je rappelle que vous êtes donc délégué départemental du syndicat de police Alliance dans les Alpes-Maritimes, et vous avez peut-être entendu juste avant ce témoignage d'un habitant qui disait, en fait, la Kalachnikov, on est habitué désormais, on est habitué à entendre des tirs de Kalachnikov dans le quartier des Moulins. Merci Jean-Luc Bragato d'avoir répondu à nos questions. 7h19, Laurent Neumann est rentré dans ce studio. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Ce matin, c'est vous qui allez remonter le temps avec nous. Certaines voix à gauche veulent nationaliser Total Énergie, l'État qui récupère des entreprises privées. C'est pas du tout inédit. Hein.
Non, François Mitterrand l'a fait, c'était la gauche, 1981-82. On s'en souvient moins, mais Emmanuel Macron l'a fait, c'était au début de son mandat.
Et vous nous le dites dans un instant, notez qu'à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, ce sera le chef des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, le professeur Gilles Pialoux. Et attention, dans 5 minutes, Arnaud Demange va venir pirater l'interview. Notez aussi que comme chaque matin à 8h50, c'est Nicolas Canteloup qui sera avec nous. Voilà le programme, 7h19 sur RMC. On se retrouve dans 30 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC et RMC Story. Tous les matins, l'histoire éclaire notre actualité. Avec vous ce matin, Laurent Neumann. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, estime hier que, je cite, « nationaliser Total Énergie n'est pas un tabou, c'est une question de souveraineté ». L'insoumis Manuel Bompard défend la même idée. Mais alors Laurent, pourquoi nationaliser Total ?
Ils le disent au nom de la souveraineté, parce que l'énergie est un bien essentiel, stratégique, et plutôt que d'enrichir les actionnaires privés, utilisons l'argent des dividendes, les bénéfices de Total pour désendetter l'État et financer les services publics.
Dans l'histoire, ça s'est déjà fait.
Oui, alors on se souvient après-guerre des nationalisations, les charbonnages de France, les houillères du Nord, Renault accusé de collaboration avec l'ennemi allemand, et puis en 1946, les transports aériens, le gaz et l'électricité, les banques, les assurances.
On se souvient surtout des nationalisations faites par la gauche en 82.
Oui, Thomson, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, des banques aussi, Paribas, Suez. Ces nationalisations qui avaient coûté à l'époque 39 milliards de francs, elles étaient déjà présentes dans le programme de la gauche en 72 et dans les 110 propositions de François Mitterrand. C'était l'époque, mais vous vous en souvenez, où la droite pensait que les chars russes allaient défiler sur les Champs-Élysées.
On se souvient un peu moins quand même, Laurent, mais Emmanuel Macron lui-même, il a nationalisé une entreprise et pas une petite.
Oui, c'est de l'histoire récente. 2018, la société STX à Saint-Nazaire, que vous connaissez sous son nouveau nom, les Chantiers de l'Atlantique, et dont l'État a pris alors 84% au nom de la souveraineté, encore, pour protéger nos intérêts stratégiques et éviter que ce fleuron des chantiers navals ne tombe entre des mains étrangères.
Et d'ailleurs, ça fait écho à l'actualité du moment dans le détroit d'Ormuzin.
Et oui, parce que cette entreprise d'excellence dont les carnets de commandes sont pleins, qui est en train de fabriquer des paquebots de luxe, peut-être le voilier du futur, eh bien c'est cette entreprise-là qui va construire le porte-avions français de nouvelle génération à propulsion nucléaire, le France Libre, entre 2027 et 2035. Alors question, est-ce que Total Energy a franchement la même valeur stratégique que les chantiers de l'Atlantique ? Chacun jugera évidemment, mais c'est exactement ce qu'a décidé l'État norvégien. C'était en 2009, l'État en Norvège a acquis 67% du géant du pétrole et du gaz, Equinor, un géant c'est qui fait 110 milliards de chiffres d'affaires. Et sachez que l'État français détient aujourd'hui la des parts de 87 entreprises pour une valeur de 210 milliards d'euros. Et dans ces entreprises, il y a qui ? Il y a EDF, Engie, Airbus, Thales, Safran et même Total pour 1,37%.
L'État a encore 1,37%
oui,
de Total.
Et ça vaut 1,7 milliard.
Ah oui, c'est pas mal. Passionnante histoire des nationalisations. Merci beaucoup Laurent. Laurent Neumann, une chronique à retrouver en podcast et sur le site de l'application RMC. Il est 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV, mon invité dans le face-à-face, c'est le professeur Gilles Pialoux, chef des services des maladies infectieuses à l'hôpital Tenet.
Oui, alors celui-là, il a été dur à caler. Hein. La vache, toute l'après-midi, notre programmatrice, elle nous a dit « On a Pialoux, c'est bon !»« Ah zut, non, il décommande, on n'a pas Pialoux !»« Si, Pialoux !»« Non !» Papialou, 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 lélé. Voilà, tout ça pour ça. Il est l'auteur du livre. Il est l'auteur du livre « Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus ». Voilà. Et là, il prépare la suite. Décidément, on n'apprend pas de nos erreurs. Carnet de bord partant d'antavirus. C'est vachement rassurant. Ce matin, la France a peur à cause du antavirus. Le antivirus.
Non,
on sait pas. On sait pas si cet été on sera coincé chez nous à cause du prix du carburant ou à cause du nouveau virus. Qu'est-ce qui va nous priver de vacances? On sait pas, c'est l'incertitude. Ça rend fou, on devient dingue. Antivirus, tu perds ton sang-froid. Juste avant la Coupe du monde, ça gave un peu quand même. Après, bon, si ça peut donner envie à Trump de reboire de l'eau de Javel, je veux dire, tout est bon à prendre. En tout cas, il a l'air un peu plus méchant que le Covid, le hantavirus. Souvenez-vous, la dernière fois, on a perdu les frères Bogdanov. Celui-là, il a une tête à nous faire perdre les frères Lebrun. Vous voyez, pour vous situer sur... Pareil qu'il n'y a pas de remède connu. Et alors là, docteur Demanche enfile sa blouse. Ah. Parce que j'ai une idée.
Oh, merde.
Est-ce que quelqu'un a testé la chloroquine? C'est moi. Si ça marche, on se souviendra de moi comme un héros. Non, mais il faut bien que ça marche pour quelque chose, la chloroquine.
Bah oui.
Ça a été inventé pour un truc à la base. Alors, la réponse politique est en cours de coordination. Vous savez qu'au Sénat, en ce moment, ils sont encore sur le débat sur la fin de vie.
Oui.
Activez-vous, les gars. Voilà. Est-ce qu'on peut débrancher? Oui, non. Dans 15 jours, on pourrait avoir besoin de la loi sur le sujet. Alors, cet antivirus est un variant sud-américain. Comment on reconnaît le porteur? Eh bien, c'est très simple.
Ah,
Il est là.
Oui. Vous entendez, oui. Il y a quelqu'un de contaminé dans les
voilà.
couloirs. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Hein. Souvenez-vous, le coronavirus, ça faisait... On avait de la fièvre, on chantait ça. En tout cas, dans nos studios, c'est compliqué à gérer cette pandémie. On a des généraux plein les couloirs et là, ils sont jaloux des médecins. Le général Desportes, il a vu débarquer Aurel Gage, le docteur d'RMC. Il lui a dit « Alors, petit morveux, tu crois que tu vas me piquer ma place comme ça ?» Moi, j'ai tué 30 régiments à moi tout seul à Saïgon. Et Aurel, il a répondu « Bah, moi aussi, j'en ai tué des ans aux urgences. J'en ai tué plein plus que toi. Chut, faut pas le dire, Aurel. C'est maladroit. Allez, rendez-vous avec Gilles Pialoux à 8h30. Mettez un masque, Apolline. On sait jamais. Il patouille des virus tout le temps. On ne sait jamais.
Il est 7h26 sur RMC et RMC Story. Il y a Arnaud qu'on retrouve à 8h15. Évidemment, il y a tout moment en podcast. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, la France, justement, est-elle prête pour gérer les éventuels cas d'antivirus? L'ancien ministre de la Santé, ancien directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, désormais député, est l'invité d'Apolline matin à 7h40. Il a participé à la gestion du Covid. Il nous dira si on a appris de cet épisode. Il y aura aussi la voix de gauche ce matin parce que c'est mardi. Cécile Duflot revient sur les féminicides pour l'ancienne ministre. Il n'y a qu'une solution. Il faut vraiment remettre des moyens et on en a perdu. Voilà ce qu'elle nous dira à 7h50. Il est 7h26. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le narcotrafic a tué 5 personnes hier en France. Un incendie criminel près de Lyon, une fusillade à Nice et à chaque fois, les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte. 22 cas contacts, les mesures d'isolement les plus strictes d'Europe. Le gouvernement français a dit tout faire contre l'antivirus. Cessez-le-feu qui ne tient plus qu'à un fil entre l'Iran et les États-Unis. Les patrons des petites entreprises françaises sont préoccupés. 9 sur 10 envisagent de prendre des mesures. C'est le chiffre qu'RMC vous dévoile ce matin.
Un incendie a fait 3 morts près de Lyon hier. La piste criminelle est privilégiée.
Notamment celle d'un règlement de compte entre narcotrafiquants. Plusieurs bonbonnes de gaz ont été retrouvées dans cet immeuble qui a pris feu donc à Décines-Charpieu. 3 morts, 14 blessés et des habitants encore sous le choc. Vincent Chevalier.
Quand cet habitant du deuxième étage sort de chez lui hier matin, une épaisse fumée noire a envahi le couloir. Il prévient donc un maximum de voisins.
Je suis obligé de toquer chez tout le monde pour l'interview. Il y avait des gens qui dormaient.
Choqué, encore un peu tremblotant, il en est convaincu. Cet incendie n'est pas le fruit du hasard.
C'est logique, ça ne brûle pas tout seul l'appartement. Et à chaque 2-3 jours, il y a un appartement qui prend le feu. C'est bizarre.
Pour Claude, une voisine, c'est bien le narcotrafic qui est à l'origine d'une dégradation de leurs conditions de vie.
Ça fait quelques mois, oui, c'est atroce. Hein. Il se cache pas. Et bon, la mairie, ils sont impuissants, la police municipale impuissante, on ne sait pas quoi faire. Là, ce quartier, c'est l'enfer maintenant.
Ce drame s'ajoute à une dizaine d'autres faits depuis un mois et demi dans ce quartier.
Des incendies criminels, des fusillades, des menaces, des intimidations.
Alain Barberis, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale.
On a aujourd'hui des assauts de réseaux criminels qui essayent soit d'intimider, soit essayer de s'accaparer des territoires.
La préfecture du Rhône a annoncé dès hier des renforts CRS ainsi que le déploiement de militaires de la patrouille Sentinelle.
Le trafic de drogue a aussi fait 2 morts à Nice. Hier, une fusillade a éclaté en plein après-midi dans le quartier des Moulins. Les enquêteurs sont à la recherche d'un tireur en trottinette. Une enquête pour assassinat en bande organisée est en cours.
7h32 sur RMC. Le nombre d'agressions homophobes en forte hausse en France.
Dans son rapport annuel, SOS Homophobie déplore notamment plus de guet-apens homophobes. 1 tous les 4 jours signalés en France l'an dernier. Des pièges tendus sur les réseaux sociaux. Amélie Courté, vous avez pu recueillir la parole et elle est rare d'une de ses victimes.
Un traumatisme qui replonge Steve, 37 ans, à l'été dernier.
Ça m'a créé de la révolte et de la rage, parce que pour le coup, c'est pas moi qui dois avoir honte.
Début août, il échange sur un site de rencontre en ligne avec 2 hommes. Le trio se donne rendez-vous en fin d'après-midi sur un parking de supermarché, puis part s'isoler dans la campagne.
Déjà, j'étais pas à l'aise, je voulais pas me retrouver entre eux. Enfin, il y avait un climat déjà un peu puant, on va dire.
Les deux inconnus demandent alors à Steve de se mettre nu.
Chose que j'ai fait, enfin, en sous-vêtements. Ils m'ont demandé par qui je voulais commencer. J'ai levé la tête. Et là, il y en a un qui m'a mis une droite.
Il se retrouve à terre, les coups pleuvent sur son visage, dans son dos.
Il y en a un qui a dit « sors le couteau ». Donc dans ma tête, je me suis dit « ça y est, j'allais mourir hein. ».
Steve porte plainte le jour même, la procédure est toujours en cours. Son avocat, maître Fabrice Agnoletti, représente une dizaine de victimes de guet-apens. Il regrette que souvent, le caractère homophobe ne soit pas pris en compte par la justice.
Et donc, des infractions jugées pour des simples faits de violence ou de vol, sans forcément la circonstance aggravante. Ces violences ont été commises en raison de l'orientation sexuelle de la personne.
Les plaintes sont surtout rares, dénonce SOS Homophobie. Peu de victimes osent le faire par peur, par honte.
Il projetait une série d'attentats terroristes en région parisienne visant notamment le Louvre ou encore une synagogue. Un homme de 27 ans originaire de Tunisie a été mis en examen et écroué hier. Il conteste les faits. Contre l'antivirus, le gouvernement durcit le ton. Les 5 Français évacués du navire de croisière, dont la femme testée positive, sont toujours hospitalisés à Paris. Et concernant les 22 cas contacts, le Premier ministre annonce un protocole d'isolement très strict. Des mesures qui se veulent rassurantes, tout comme ces paroles du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez le docteur Tedros.
Je souhaite que les citoyens français ne s'inquiètent pas de cette situation. Le risque est faible et nous ne prévoyons pas de pandémie. Et le danger pour la population est également faible. C'est ce que nous avons toujours dit et c'est ce que montrent nos analyses. Je souhaite que les Français le comprennent. Le risque pour eux est faible, je le répète.
Et ne manquez pas, à 7h40, juste après votre journal, Rachel, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, et à 8h30, dans le face-à-face, mon invité, ce sera Gilles Pialoux, qui est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, à Paris. Il nous dira comment déceler cette maladie, son degré de contagiosité, la capacité aussi à en mourir ou non, et où sont les 5 personnes considérées comme à risque et les 22 cas contacts.
Nicolas Sarkozy pourrait bien retourner en prison, condamné en première instance à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle. C'était en 2007. Et bien, l'ex-chef de l'État avait purgé 20 jours avant d'être libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son appel. Second procès, il est en cours et hier, le parquet a requis la confirmation de cette condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs.
Il est 7h35 sur RMC. Plus de 8 patrons, petits patrons sur 10 se disent préoccupés.
Oui, c'est le résultat du baromètre de conjoncture fiduciale des TPE pour RMC. On vous le révèle en exclusivité ce matin, face aux hausses du coût de l'énergie, des prix d'achat et à la baisse de la demande. Eh bien, ces petits patrons, ils anticipent des répercussions négatives, comme ces Bretons que vous avez rencontrés pour RMC, Martin Lange.
Benoît Loury est peintre en bâtiment, il gère 6 salariés et aujourd'hui ses carnets de commandes ne sont pas remplis.
On est tous inquiets aujourd'hui, on subit la frilosité des clients. Là où on devrait être dans une période d'activité pleine, on est encore ralenti, donc c'est compliqué à gérer.
Résultat des embauches gelées et des investissements réduits.
On avait des projets d'investissement sur des véhicules et finalement on n'en renouvelait qu'un seul sur 2. On réduit la voilure et sur les embauches, on avait prévu d'embaucher 2 salariés, on va attendre un peu.
Autre secteur, mais même inquiétude pour Michael. Ce gérant d'une brasserie artisanale près de Rennes subit lui aussi la baisse de la consommation et la hausse du coût de l'énergie. Il a donc décidé d'adapter ses livraisons.
On se déplace le moins possible, on va dire. On essaie de mutualiser au maximum pour baisser les coûts de transport.
Lui aussi voudrait investir dans du matériel.
On va essayer de racheter quelques fûts pour faire tourner un peu plus sur le stock, mais si c'est pas indispensable, on le fera pas. On serre la ceinture et puis on va faire vraiment avec ce qu'on a.
Avec la volonté de maintenir l'activité de son apprenti et de son salarié à mi-temps.
Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la 2e année consécutive hier soir à la cérémonie des trophées UNFP. Pierre Sage, le coach de Lens, désigné meilleur entraîneur. Le PSG et donc son dauphin lensois se retrouve demain soir pour un match en retard de Ligue 1, coup d'envoi à 21h.
Et puis le quintet, c'est à Chantilly aujourd'hui.
Et voici le pronostic de Dimitri Blanc-Lœil de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 9 Mr Cheng et son outsider, le 2 Major Hawk.
C'était le journal de Rachel Sadodine. Il est 7h37. Au 32-16, il y a Mathieu qui nous appelle de Lille, qui est kiné. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline.
Mathieu, comment ça va? Vous vouliez réagir parce que on l'a entendu ce matin, ce témoignage après une fusillade à nouveau, en plein jour, dans le quartier des Moulins. Il y a eu 2 morts, 6 blessés. Il y a eu aussi cet incendie, on en parlait à l'instant dans le journal, 3 morts, un incendie visiblement criminel avec la volonté d'un règlement de compte. Et ce témoignage assez inouï quand même d'un habitant qui disait « Bon, le bruit des Kalachnikovs, désormais, on est habitué. » Mathieu, comment vous réagissez-vous?
Bah moi j'ai l'impression qu'on continue la descente, hein. On continue la descente en enfer. J'ai l'impression que l'attitude de tous ces réseaux par rapport à nos réponses pénales, elles sont complètement excédentaires, quoi. Moi je pense qu'à un moment il faudra peut-être revoir nos lois et créer des sanctions dissuasives et immédiates par rapport à tout ça. Faire comme au Salvador où c'est sûr ça ferait des dommages collatéraux pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un tel décalage entre notre justice et l'action de fer de tous ces groupes.
C'est-à-dire que vous avez le sentiment que notre justice n'est plus adaptée à ça?
Non,
parce que là,
non,
là vous l'avez entendu, hein, le responsable des policiers des Alpes-Maritimes qui disait il y a une vraie volonté de s'y attaquer. Alors certes, on n'a pas assez de moyens. Vous entendiez aussi peut-être le procureur de la République de Nice qui disait c'est précisément parce qu'on a fait des arrestations qu'il y a ces réactions et ces règlements de compte.
Mais moi, je pense la police, elle fait son travail. Hein. Moi, je pense que c'est la justice qui est... Finalement, ce sont nos lois qui sont...
Vous avez le sentiment, vous, Mathieu, y compris à Lille, on avait eu un certain nombre de témoignages aussi d'un certain nombre de quartiers dans le Nord, que cette question, elle fait désormais partie de votre quotidien ?
Ouais, partout, parce qu'avant, ça concernait les grandes villes, les moyennes villes, et maintenant, ça commence à arriver dans nos campagnes. Moi, je travaille dans une commune où il y a 5-6 000 habitants, et bah ouais, il y a du deal.
Il y a du deal.
Après, je pense aussi qu'à un moment, il faudra peut-être aussi voir un peu la situation de chacun, parce que moi, je comprends pas comment des gens de 18, 25, 30 ans sont dehors le lundi après-midi. A priori, soit on est à l'école, soit on est au travail, a priori. Et quand je vois le rythme de vie de certains qui sont abreuvés aux aides et qui ont des rythmes de vie qui sont certainement supérieurs aux nôtres, voilà.
En tout cas, pour vous, tout ça est lié. Mathieu, vous qui êtes donc kiné à Lille, ce qui est vrai, c'est qu'hier, on l'entendait, c'était en plein jour. Et le grand paradoxe, c'est que les policiers étaient là. C'est-à-dire précisément, ouais. Et c'est ce qu'ils nous disaient, ils étaient à quelques mètres et ils ont entendu la fusillade alors qu'ils étaient déjà sur place. Merci en tout cas, Mathieu, de votre témoignage. Vous pouvez tous vous exprimer. On écoute vos témoignages, vos réactions au 32-16. Il est 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Un virus comparable à Ebola ou alors pas de raison de céder à la panique. L'antivirus est en tout cas officiellement présent en France depuis hier. Bonjour Aurélien Rousseau.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous êtes député place publique, vous êtes l'ancien ministre de la Santé et vous avez aussi dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Est-ce que notre pays est prêt en cas de nouvelle épidémie, peut-être même pandémie, pour l'instant on parle d'épidémie possible. Vous aviez géré la crise du Covid. Quelles sont les leçons que vous en avez tirées, que vous pouvez partager avec nous ce matin, vous nous le dites, il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Avons-nous tiré les leçons de la crise du Covid ? On se pose la question évidemment ce matin, alors qu'une malade de l'antivirus est officiellement sur le territoire français, une Française rapatriée du bateau de croisière Ondius. Elle est hospitalisée en réanimation, dans un état stable, c'est ce que nous disent les autorités. Bonjour Aurélien Rousseau, vous êtes député place publique des Yvelines et vous êtes l'ancien ministre de la Santé. Vous avez aussi dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pendant la crise du Covid. Est-ce qu'on est prêt et est-ce que vous êtes inquiet ce matin ?
Alors, en tout cas... On est plus près qu'on ne l'était il y a 6 ans. Et je crois qu'on est tous, il y a le gouvernement qui doit s'adapter, il y a nous aussi, citoyens. On a beaucoup d'incertitudes, donc on s'adapte. Et le point de départ qui est de dire on met le niveau de contrôle le plus élevé pour protéger les populations et ensuite on adaptera, je pense que c'est la bonne porte d'entrée dans cette crise qui n'est pas encore une épidémie, avec encore une fois plein de questions. Et le grand défi pour moi du gouvernement, c'est d'arriver à dire ce qu'il sait, à dire ce qu'il ne sait pas. Ça a été très précieux pendant l'épidémie de Covid. Et en effet, à moduler les réponses en fonction de ce que la science va nous apprendre au fur et à mesure.
La volonté hier d'ailleurs de la part du gouvernement d'être entouré par les meilleurs spécialistes épidémiologistes, spécialistes des maladies infectieuses, qui d'ailleurs se réuniront plusieurs fois par jour désormais tant que la crise durera. Crise aiguë, maladie qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Est-ce que après le Covid, vous avez laissé, j'allais dire, la maison en ordre ? Est-ce qu'on en a tiré des conséquences, y compris dans l'organisation médicale ? Vous avez cette double casquette d'avoir été à la fois le ministre et le patron de l'ARS. On a beaucoup dit à l'époque qu'il avait fallu changer les méthodes de travail à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital français, aujourd'hui, est en mesure de faire face à cette crise ou à une autre, d'ailleurs ?
Alors, avant l'hôpital... ce qui est en ce moment même en cours, C'est tout ce travail, alors ça va rappeler à vos auditeurs des mots qu'on employait il y a quelques années, de contact tracing. C'est quoi ? C'est on va déplier le plan de l'avion dans lequel sont partis des passagers
de Sainte-Hélène à Johannesburg.
On va repérer si des Français étaient à proximité, ont eu le risque d'être...
La personne malade qui est décédée ensuite.
Absolument, ont eu le risque d'être contaminés. Et les enquêteurs, parce que c'est le mot de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, parce que c'est concentré en France à l'ARS Île-de-France, vont téléphoner, appeler, classer le risque, donner les conseils. Donc on est dans la phase où on doit pouvoir étouffer le départ et la dissémination de ce virus.
Il y a ce qu'on fait nous, et il y a les autres pays. Évidemment, c'est une question, Aurélien Rousseau, puisque au fond, ils étaient au départ tous sur ce bateau, qu'ils ont, pour des raisons quand même assez étranges, été ensuite dispatchés dans les différents pays. Alors on dit que c'est parce que peut-être l'OMS n'avait plus les moyens aujourd'hui d'envoyer un bateau frère, en quelque sorte, qui vienne aux côtés du bateau de croisière, qui soit un bateau hôpital pour pouvoir y accueillir les différents malades. Bref, aujourd'hui, ils sont chacun dans leur pays. On voit qu'aux États-Unis, le protocole n'est absolument pas le même qu'ici. Il y en a d'autres qui vont arriver en Australie dans les heures qui viennent. Le protocole sera encore différent. Est-ce qu'on n'a pas pris un risque en ne coordonnant pas, au niveau mondial, la réponse ?
Mais là, il faut être clair. C'est vraiment aussi très directement la conséquence de la confusion que fait régner, par exemple, que font régner les États-Unis sur ces sujets. Ils ont quitté l'OMS, donc oui, l'OMS a moins de financement. Aujourd'hui, le secrétaire à la santé américain donne des conseils qui sont pour le moins surprenants. Et après, soyons clairs, est-ce que on avait les moyens en quelques jours d'envoyer un bateau qui soit capable de prendre des malades qui sont susceptibles d'être réanimatoires, c'est-à-dire de nécessiter une prise en charge de réanimation en quelques heures. Je ne suis pas sûr. Encore une fois, il faut, je pense, toujours se dire on va tâtonner, mais on va adapter. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est effectivement la coordination et que tous les pays appliquent les mesures de contrôle les plus protectrices.
Avec une question qui est évidemment le temps d'incubation. 42 jours, c'est extrêmement long. Ça veut dire qu'on peut les tracer, mais ensuite, il ne faut pas les lâcher en quelque sorte.
Oui, alors moi, je le dis, je ne suis pas médecin, je suis encore moins infectiologue. Donc
oui, mais vous connaissez parfaitement tous les rouages de la santé. Parce qu'il y a ancien ministre et ancien patron de l'ARS.
Il y a un peu ce côté, tout le monde l'est en ce moment. Hein, donc je pense, en effet, le grand sujet, c'est de ne pas les lâcher, de ne pas les perdre, de les retrouver, de leur parler. Mais moi, pareil, dans une situation de crise comme ça, il y a d'un côté les dingues qui sont décapsulés. Donc là, sur les réseaux sociaux, vous avez tous ceux qui disent c'est un complot des laboratoires pharma, c'est un complot contre les États-Unis. Je voyais Dupont-Aignan, Philippot, c'est à tomber par terre. Les mêmes qui recommandent par ailleurs de supprimer les agences régionales de santé ou Santé publique France, les mêmes qui recommandent de supprimer l'ADEME qui travaille sur l'environnement. Ce sont les mêmes. Mais nous, le gouvernement, nous les politiques, on doit s'adresser aux citoyens qui ont légitimement, c'est légitime, d'avoir des questions, d'avoir des craintes. Le job du gouvernement aujourd'hui, mais de tous les politiques, c'est pas de dire c'est grave, c'est pas grave, c'est d'être au boulot pour protéger le maximum. Et en ce moment même, il y a des agents publics à Bichat qui ont pris en charge les malades, à l'hôpital Bichat à Paris.
Où sont les 5 personnes
à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui font le tracing, le pistage, si je puis dire, de tous ces malades. Voilà, c'est on répond et on s'adapte. C'est ça, et on dit en permanence la vérité sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas.
Dire la vérité sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, on sent bien que c'est vraiment aussi une des leçons que vous avez tirées de la crise du Covid. Merci beaucoup Aurélien Rousseau, député aujourd'hui Place Publique des Yvelines, et vous êtes l'ancien ministre de la Santé, ancien directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pendant la crise du Covid. Tiens, vous évoquiez l'ADEME d'ailleurs, et dans un instant, sachez-le, Cécile Duflo sera avec nous. Bonjour Cécile, parce que vous allez revenir ce matin sur ces féminicides qui se multiplient en France. Pour vous, il faut faire changer les choses, mais je précise que votre dernière chronique c'était pour défendre l'ADEME, donc il y a une certaine continuité, Cécile.
Oui, une continuité aussi sur la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était le premier pilier de la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, et on peut le dire quand même et avec beaucoup de regret, grande cause et petit bilan.
Vous nous le dites dans un instant, Cécile Duflo, 7h51, comme tous les jours sur RMC, c'est aussi vous qui nous alertez, qui réagissez. Le 32-16 vous est ouvert, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, comme tous les mardis, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus, Mathieu, le retour d'Oasis au cinéma.
Ouais, beaucoup se sont plaints de ne pas pouvoir obtenir de billets pour la tournée de retour des Anglais d'Oasis l'an dernier. Peut-être arriverez-vous à acheter un ticket de ciné. L'annonce vient d'être faite. Un documentaire consacré à la tournée, les premiers concerts après leur séparation explosive de 2009. Le retour, la reformation sur grand écran. Très grand écran même pour les fans. Le documentaire doit d'abord sortir dans les salles IMAX le 11 septembre prochain avant d'atterrir sur la plateforme Disney+. Le documentaire qui est produit par le producteur de la série Peaky Blinders. Et alors j'ai découvert, ça n'a rien à voir, c'est aussi un des créateurs de Qui veut gagner des millions. Il promet un récit émouvant. Il annonce dévoiler les préparatifs de tournée, des répétitions, les coulisses des concerts. Mais on verra surtout aussi la première interview croisée, la première interview commune des deux frères Gallagher depuis plus de 25 ans, retour d'Oasis en salle à la rentrée.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche, voix de droite.
C'est mardi, la voix de gauche d'RMC, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour
Apolline. Ce matin, vous vouliez revenir sur ces chiffres terribles. Il y a eu 6 féminicides en 9 jours, 36 depuis le début de l'année. Pour vous, c'est un échec collectif.
Oui, et c'est terrible parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On connaît les mécanismes des violences conjugales, on connaît les signaux d'alerte, on connaît surtout les méthodes et les dispositifs qui permettraient de protéger les femmes. Et donc le problème, ce n'est pas l'absence d'outils désormais, ce n'est pas l'absence de prise en compte du problème, mais le manque de moyens. Et 7 ans après le Grenelle des violences conjugales, alors que le président Macron avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de son quinquennat, les associations aujourd'hui, d'une même voix, disent toute la même chose. Elles sont débordées, elles sont fragilisées, elles sont parfois obligées de fermer des permanences alors que les demandes explosent et donc que les féminicides continuent.
Le gouvernement répond qu'il agit, il y a des dispositifs bracelets anti-rapprochement qui ont été mis en place, des téléphones grave danger qui ont été distribués, des ordonnances de protection qui sont délivrées par des juges.
Oui, et on le sait, ces dispositifs sont utiles, ils fonctionnent, mais des outils qui ne sont pas financés correctement, ce ne sont que des symboles, et pas seulement d'ailleurs, c'est aussi des signaux d'échec et de vrais regrets, parce que pour ce qui est de l'hébergement d'urgence, qui est la solution de première urgence, la Fondation des Femmes a été très claire, elle alerte sur une hausse de 76% des demandes non satisfaites entre 2002 et 2025. Très concrètement, cela veut dire que des femmes appellent parce qu'elles sont en danger et qu'on leur répond « désolé, il n'y a pas de place ». Comment s'étonner donc que certaines retournent au domicile conjugal avec un conjoint violent ? Ce qui est frappant quand même là ces derniers temps, c'est le décalage entre les grandes déclarations publiques, l'émotion à chaque fois et la réalité budgétaire. La lutte contre les violences faites aux femmes, ça doit se traduire en moyens parce qu'aujourd'hui, c'est financé à un niveau très faible par rapport à l'ampleur du phénomène. Et ça va aussi, c'est aussi du même ordre pour ce qui est de l'accompagnement des hommes violents. C'est le même recul.
C'est le même recul. Cette question, c'est un sujet extrêmement important qui doit être remis au cœur des attentions.
Oui, l'ensemble du sujet et notamment le fait évidemment de protéger les femmes, mais surtout aussi d'empêcher les violences avant et d'empêcher les récidives surtout, parce que après le Grenelle toujours, l'État avait créé des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. L'idée était très simple, suivre les hommes violents, travailler pour éviter la récidive, intervenir avant les passages à l'acte plus graves. Mais là encore, si on regarde les budgets, on constate qu'au plus haut, ces centres ont reçu à peine 6 millions d'euros pour toute la France, 6 millions d'euros pour un sujet qui concerne des centaines de milliers de personnes. Et depuis 2025, ces financements qui étaient déjà faibles diminuent. C'est absurde parce qu'on sait qu'un féminicide n'arrive pas sans signe avant-coureur.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, concrètement ?
Eh bien, d'abord, on arrête de considérer cette question comme un sujet qui ressort au moment où il y a des crises ou des femmes qui meurent. C'est pas un sujet secondaire, c'est pas non plus un sujet symbolique, c'est pas surtout une fatalité. Et les conséquences très concrètes de choix, ou plutôt de non-choix, on les voit sous nos yeux. Donc, les associations ont clairement documenté ce qu'il fallait faire. Une loi 4 contre les violences, financer massivement l'hébergement d'urgence, les associations, la justice, les dispositifs de protection, et aussi former davantage les policiers, les magistrats, les soignants, stabiliser les structures qui accompagnent les femmes victimes pour qu'elles soient pas en permanence sujettes à des coups dans tous les sens sur le plan budgétaire, et ne pas maintenir toutes ces structures dans la précarité financière permanente. La question, en fait, qui nous est posée, elle est très simple, Apolline. Est-ce que la société est prête à investir pour empêcher qu'une femme soit tuée aujourd'hui? Les budgets sont pas à la hauteur des discours, mais les féminicides, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des drames. Une litanie vertigineuse de prénoms qui nous le rappellent tragiquement.
Merci beaucoup, Cécile. Cécile Duflo, La Voix de Gauche sur RMC. Merci à vous. Demain, à votre place, comme tous les mercredis, ce sera La Voix de Droite, Louis Sarkozy. Il est 7h57. Dans un instant, le journal de 8h. À la une, c'est deux morts dans une fusillade en pleine journée hier. Ça s'est passé à Nice, quartier des Moulins. Nous serons en direct dès le début du journal. Juste après, il y aura l'économie avec vous, Manu Le Chip. On s'en doutait, mais c'est officiel. Les familles monoparentales sont bien les plus fragiles aujourd'hui.
Oui, beaucoup de chiffres très intéressants sur leur situation financière compliquée.
Et puis, il y aura la météo. Géraldine nous le dit. Attention, il fait frais. 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.